Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de votre émission Eurocircle. Et c'est parti.
Émission spéciale, le service civique à l'international. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans. Le service civique à l'international permet de préparer et de réaliser des voyages à visée humanitaire et citoyenne à l'étranger. Bénéficiant d'une bourse, mais aussi d'un coup de pouce de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une trentaine de jeunes a pu se rendre en divers endroits afin de prendre conscience de réalités parfois difficiles, mais aussi d'apporter un regard et des attentions particulières en bien des pays. Basée à Marseille, l'association Eurocircle informe, conseille et accompagne les jeunes dans leurs projets. Actuellement, le cycle ouvert en octobre 2015 arrive à sa période de conclusion, avec une exposition et un rendu de chaque volontaire au Centre d'information jeunesse de Marseille. L'occasion pour nous de rencontrer ces jeunes citoyens et d'évoquer avec eux leur voyage. Dans l'émission que je vous propose d'écouter, et grâce aux jeunes Français que j'ai rencontrés, nous irons en Asie, Afrique, Europe bien sûr, en Amérique latine et même au Liban, pays meurtri mais toujours attirant. Nous écouterons donc Marilyn parler de la Bolivie, Kevin revient du Japon, un pays qui le fascine, Johanna, elle, était en Grèce, pendant que Myriam a passé un mois à Beyrouth, enfin Paul a découvert le Togo. Attention, leur enthousiasme est contagieux. Mais avant de passer la parole aux jeunes qui sont partis en service civique à l'international, Laureline Trabuc, animatrice à Eurocircle, précise les conditions de ces voyages particuliers. Laureline Trabuc, vous êtes employée à Eurocircle à Marseille. Vous pouvez nous expliquer les missions d'Eurocircle ?
Eurocircle est une association marseillaise qui développe des projets transnationaux, spécifiquement dans la mobilité des jeunes. Des projets tels que le service civique à l'international, le service volontaire européen, les échanges interculturels ou encore des stages professionnels.
C'est une activité qui est importante sur Marseille, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
Oui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous pour prendre des informations sur les différents types de mobilité qui existent et qui partent effectivement avec nous à l'international. Mais on contacte aussi des structures comme les missions locales ou des associations avec lesquelles on permet de monter des projets sur la mobilité des jeunes.
Est-ce que les jeunes viennent vous voir également directement ?
Oui, bien sûr. On fait des infos collectives toutes les deux semaines au sein de notre association pour permettre aux jeunes de venir d'eux-mêmes connaître les différents types de mobilité.
Nous allons parler plus particulièrement du service civique international. Comment est-ce que ça se déroule et qui ça concerne en tant que jeune ?
Le service civique à l'international est un dispositif de l'État qui a été mis en place depuis plusieurs années et qui concerne les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, quel que soit leur niveau scolaire et leur niveau de langue.
Quelle que soit leur nationalité également ?
Quelle que soit leur nationalité également, s'ils vivent sur le territoire français.
Vous avez encadré un groupe de personnes qui a participé à ce service civique à l'international. Comment ça se passe pour à la fois le recrutement et puis pour l'encadrement pendant ce service ?
Alors déjà, je vais un petit peu expliquer quel est exactement ce projet de service civique à l'international. On a monté avec Eurasianet et en soutien avec la région un service civique parcours combiné qui nous a permis d'envoyer 30 jeunes à l'international avec une phase en France, une phase à l'international, puis encore une fois une phase d'un mois en France.
C'est eux qui choisissent leur destination ?
Sur ce projet-là, non. On leur a proposé différentes destinations et différentes missions à l'international. Et les jeunes, lorsqu'ils se sont engagés pour ce parcours-là, se sont aussi engagés pour un pays en particulier.
Quels pays ont été choisis ?
Et alors, il y en a eu plusieurs. Je risque d'en oublier certains. Il y a eu la Bolivie, le Togo, la Grèce, l'Arménie, le Cambodge, le Vietnam, le Japon. J'en oublie sûrement encore.
Quelle est la part de l'aide financière pour le service civique à l'international ?
Les jeunes perçoivent de l'Agence du service civique une indemnisation de 467 euros. La région les soutient avec un pass volontariat, c'est une bourse de mobilité, à hauteur de 400 euros, plus 75 euros par mois de mobilité.
Lorsqu'ils sont à l'étranger, ils ont un soutien ici même à Marseille, dans leur mission, entre guillemets.
Bien sûr, au sein d'Eurocircle ou de Razianet, qui est aussi une autre association plus spécifique dans des projets en Asie, les jeunes ont un tuteur dans chacune des structures, donc un tuteur au sein d'Eurocircle et un tuteur au sein de leur structure d'accueil dans leur pays d'accueil, leur mission à l'international.
Vous avez l'habitude d'accompagner des groupes de personnes qui partent à l'étranger, des jeunes. Vous tirez un bilan positif et vous les trouvez comment, nos jeunes ? Ils sont assez curieux ?
Oui, bien sûr. Ça fait à peu près 7 ans maintenant que je travaille pour Eurocircle. Je suis convaincue de l'intérêt d'une mobilité dans le parcours d'un jeune sur l'impact que peut avoir cette mobilité dans leur parcours socio-professionnel. Je le vois vraiment sur des formations au retour. Ils sont partis. Certes, ils étaient curieux, sinon ils n'avaient pas déjà envie de partir. Mais il y a un impact sur l'autonomie, sur le travail en équipe, diverses compétences sociales et professionnelles qu'ils ont pu acquérir là-bas, qu'on voit réellement au retour.
Vous avez fait le bilan de plusieurs groupes, environ une cinquantaine de personnes par an qui partent grâce à vos services et à ce dispositif. C'est donc un regard positif que vous lancez, mais en même temps, vous avez des retours après leur séjour et longtemps après leur séjour de ces jeunes.
Ça dépend les jeunes, bien sûr. Il y en a qui continuent leur route sans qu'on ait à les suivre et d'autres qu'on revoit sur d'autres mobilités. Ils reviennent vers nous parce qu'ils ont pris le goût du voyage et ils veulent s'engager et s'impliquer dans d'autres types de missions. On les envoie sur du service volontaire européen où ils deviennent leaders sur des échanges de jeunes et c'est comme ça qu'on les suit.
Pour un jeune qui a entre 18 et 25 ans, s'il veut partir à l'étranger en passant par ce dispositif, comment on doit faire ?
Soit ils viennent lors d'une information collective qui a lieu tous les 15 jours au sein d'Eurocircle, donc il suffit de nous appeler pour s'inscrire dans une info collective, ou au CRIJ, qui font également des infos collectives dans lesquelles on participe. Il suffit d'appeler le CRIJ et de s'inscrire. Soit de nous appeler tout simplement et de venir nous voir pour connaître nos projets. On a aussi également un site, le site d'Eurocircle, où il y a nos offres de mobilité qui sont dessus.
Myriam, vous avez 23 ans et vous êtes partie au Liban. Vous êtes passée par Eurocircle pour ce service civique à l'international. Comment ça s'est passé ?
Moi, j'avais déjà fait un service volontaire européen avec Eurocircle et c'est eux, du coup, qui m'ont ensuite parlé de ce service civique international. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager.
Avec ce choix particulier de ce pays plutôt mouvementé qu'est le Liban ?
Oui, c'est un pays qui est assez mouvementé, mais finalement qui m'intéressait déjà pour la langue. Parce que je voulais apprendre l'arabe. Pour la région aussi, le Moyen-Orient, je trouve que c'est un pays c'est une région qui est super intéressante. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Et on s'est entouré par le conflit israélo-palestinien. Il y a le conflit syrien, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant.
On a une vision probablement faussée, nous ici en Europe, de ce qui se passe au Liban. Cette vision, vous l'avez certainement corrigée sur place.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on a, quand on parle à nos proches, qu'on voulait aller au Liban, ils n'étaient pas très très ravis et finalement on s'est avéré que là-bas c'était tout à fait normal. Il se passait pas grand chose, mais il y a eu tous les préjugés ont été effacés.
Avant de partir, vous vous êtes préparé à ce voyage, vous avez lu un petit peu ce qui concernait ce pays.
Oui, un peu. J'ai regardé quelques trucs sur Internet, etc.
Vous vous destinez à une carrière diplomatique, vous faites des études de droit, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'aimerais travailler dans les droits de l'homme ou l'humanitaire, la gestion de projets humanitaires, etc.
Et vous pensez que ce séjour au Liban aura une importance dans votre carrière professionnelle par la suite ?
Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir déjà vécu dans un pays du Sud, un pays un peu moins développé que ceux qu'on a l'habitude de visiter. Et ça se permet de se... reconcentrer sur ses priorités, etc., de voir par rapport à certains problèmes qu'il y a dans ces pays que nous, on ne connaît pas, en fait.
La vie quotidienne pour une jeune Française au Liban, comment ça se passe hein?
C'est à peu près la même qu'en Europe, finalement. C'est très similaire, oui et non. Il y a quelques problèmes, comment dire, au niveau de l'électricité, de l'eau, etc. Il y a beaucoup de coupures d'électricité. Il n'y a pas tout le temps de l'eau. Mais globalement, c'est pareil. Internet, c'est pas trop ça. Mais globalement, on s'adapte très vite.
Le dispositif qui est mis en place par Eurocircle vous permet de partir en binôme avec une autre personne. Comment ça s'est passé également avec cette personne qui vous a accompagné?
Ça s'est très bien passé. Comme on est binôme, il faut savoir s'adapter et savoir gérer parfois des situations un peu plus complexes, mais globalement, c'était très bien. Il faut savoir faire des compromis, c'est comme dans un couple.
C'est une expérience que vous conseilleriez à des jeunes?
Ah oui, complètement. Je ne vais pas dire que c'est indispensable dans une vie, mais je pense que c'est nécessaire de faire ce genre d'expérience, de voyager tant qu'on est jeune et de découvrir de nouvelles cultures. Ça permet de s'enrichir, etc.
Il y a d'autres pays qui vous font rêver, Myriam?
Tous les pays me font rêver. Non, c'est vrai, je suis très attirée par l'Amérique du Sud aussi et l'Asie du Sud-Est. J'aimerais visiter le Pérou, le Brésil, etc.
On vous le souhaite. Merci Myriam.
Merci à vous.
Marilyn, une jeune Marseillaise qui est partie en Bolivie.
Ce choix, par nécessité, c'était plus l'Amérique latine, apprendre à parler espagnol, découvrir une autre culture, voir comment ils vivent en Amérique latine, en fait, ça me passionne. J'ai toujours été passionnée, en fait, par le reggaeton, la musique, et puis par la vie là-bas, par les latinos.
Avant de partir, vous avez subi une sélection, entre guillemets. Comment ça s'est passé?
La sélection, non, s'est passée très bien. On nous demandait nos motivations, pourquoi on voulait faire ça. Et puis voilà, quand on est sûr de ce qu'on veut faire, on expose avec clarté nos motivations, quoi.
Vous avez préparé votre voyage avant d'y aller. Ça a été difficile?
Préparé, pas du tout, parce que je suis partie au dernier moment en Bolivie. Je l'ai su une ou deux semaines avant de partir. Donc, il a fallu que je prenne mon billet rapidement, parce qu'à la base, la Bolivie, l'Amérique latine, c'était mes premiers choix, sauf qu'ils sont tombés à l'eau, comme les pays du Mexique et de l'Argentine. Puis après, je me suis repositionnée sur la Palestine. Donc, au moment de partir, sur la Palestine, il y avait aussi une guerre. Donc je n'ai pas pu partir et on m'a proposé la Bolivie ou le Togo. Et du coup, je suis restée sur mon choix d'Amérique latine.
Racontez-nous votre voyage et votre séjour en Bolivie.
Alors mon voyage, il était très très compliqué parce que c'est dur de partir avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'entend pas, qu'on n'a aucun point commun, d'être dans un pays où on n'a pas de repères, où on est loin de tout, de toute notre famille, de tous nos amis. Et de devoir en fait s'en sortir tout seul, de devoir s'adapter à la mentalité, à la culture, à leur manière de vivre. Nous, quand on est habitué ici à notre petit confort, on change de pays, on change complètement de vie. Le confort n'est plus du tout le même. Et après, soit on arrive à s'habituer et on reste jusqu'à la fin, ou soit en fait on arrête, on ne peut pas, c'est trop dur pour nous et on repart. Moi, en l'occurrence, je suis restée jusqu'à la fin, même si ça a été très très compliqué, sachant que j'ai perdu ma carte bleue, j'ai cassé deux fois mon téléphone là-bas. Je n'étais pas vraiment préparée pour le voyage parce que je suis partie, je n'ai pas pris mon appareil numérique, je n'ai pas pris mon ordinateur, j'ai tout oublié en fait. Je suis partie vraiment limite sur un coup de tête, quoi, j'ai envie de dire.
Vous étiez à quel endroit en Bolivie?
À Cochabamba.
Décrivez-nous un peu cette ville qui a un nom magnifique.
Alors cette ville, elle est très grande. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins. Il y a surtout beaucoup de places avec des palmiers et des montagnes à perte de vue. De partout où on passe, il y a les montagnes. Et il y a aussi, surtout, le Christ, comme à Rio. Sauf qu'il est plus grand de 4 mètres en Bolivie. Et en fait, c'est magnifique parce qu'on marche dans la rue ou en taxi, ou que ce soit jour et nuit, on a la vue sur le Christ, en fait. On a l'impression d'être... on a vraiment l'impression d'être parti, quoi, d'avoir quitté notre petit quotidien, notre nid en France.
Marilyn, vous êtes hispanophone. Les contacts avec les Boliviens, je suppose, ont été beaucoup plus faciles grâce à la maîtrise de cette langue.
Oui, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Mais après, ouais, il y avait des petites paroles qui changeaient. C'était pas forcément pareil, mais en 3 mois, j'ai eu le temps de largement m'habituer, de comprendre tout ce qu'on voulait m'expliquer, tout ce qu'on voulait me dire, certains mots que je ne comprenais pas, qui en espagnol ne se disait pas comme ça, et en Amérique latine se dit autrement. Mais après, voilà, en m'expliquant ce que ça voulait dire, je comprenais. Et puis après, à force, on prend l'habitude et ça devient un automatisme.
On sent le plaisir que vous avez eu d'aller en Bolivie. Vous avez certainement découvert des choses que vous ne vous attendiez pas à voir ou à entendre, par exemple. J'ai l'impression que la musique est importante pour vous.
Oui, très importante, la musique. J'ai pu découvrir plus de chansons reggaeton, moi qui aime beaucoup ça. Puis après, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir voyager dans notre ville, puisque la Bolivie est très, très grande et elle possède d'énormes trésors et des magnifiques paysages comme le Salar d'Uyuni, donc le plus grand désert de sel, qui généralement se fait en 4 jours jusqu'à la frontière d'Argentine. Donc moi, je l'ai fait en 3 jours jusqu'à presque la frontière, mais pas tout à fait. Mais jusqu'à là, j'ai déjà vu des choses vraiment très belles et des photos que j'ai prises qui, on dirait qu'elles sont sorties tout droit de Google.
C'est un voyage qui vous a marqué, on le sent. C'est également un séjour qui aura un poids particulier dans votre vie personnelle et professionnelle, voire.
Oui, beaucoup, parce que depuis que je suis revenue, j'ai quand même un petit peu changé mon quotidien. Donc, je me maquille beaucoup moins, je laisse moins couler l'eau à la maison. Et puis, je sais maintenant vraiment ce que je veux faire. J'ai un but précis. Et c'est pas finir mes jours en France, en fait. C'est travailler dur, mettre de l'argent de côté et ouvrir un commerce dans un pays d'Amérique latine, qui sont des pays d'avenir, puisque tout ce qu'on a ici n'existe pas là-bas. Et puis, on n'aura aucun concurrent et je suis persuadée que ça pourrait marcher.
Kevin, un jeune Marseillais de 21 ans qui est parti au Japon. Pourquoi cette destination ?
Alors, pourquoi le Japon ? J'en ai rêvé depuis que je suis gosse. J'ai appris le japonais au lycée, j'avais vraiment envie. Donc, sur le coup, quand on a proposé le projet, c'était l'occasion rêvée, en fait.
Qu'est-ce que vous avez retenu du Japon et de cette vie particulière, la vie nippone ?
Plein de choses, plein de clichés qui ont été un peu certifiés et d'autres rejetés. J'ai vécu en plus la campagne japonaise et la ville, donc le contraste, et c'est très différent.
Vous avez des anecdotes à nous raconter ?
Le froid, le froid de la montagne. J'ai vécu, on va dire, la neige, puisqu'à Marseille, il neige très rarement. Là, c'était une montagne de neige de 2 mètres, donc de ma taille. Sinon, c'était Tokyo. Tokyo, c'était... J'ai visité la plus grande tour de Tokyo et c'était magnifique. Une vue magnifique.
Comment vous êtes préparé à passer ces 6 mois particuliers au service civique à l'international ?
Alors, je me suis préparé avant, parce que j'ai voyagé un petit peu avant. J'ai fait un programme SVE en Pologne. Du coup, on va dire que l'envie de voyager était encore là et vu que c'était un projet entre 3 mois en France, 3 mois au Japon, je dis, on va se lancer encore dans un petit fighting.
Évidemment, on dit les voyages forment la jeunesse, c'est une réalité, c'est une évidence. Vous allez utiliser ce que vous avez appris, ce que vous avez vu, entendu, goûté au Japon dans votre vie personnelle, professionnelle ?
Personnellement, je voudrais y retourner déjà et je voudrais maîtriser déjà la langue. Peut-être aussi la vie japonaise, ce n'est qu'un début.
C'est-à-dire, comment vous voyez votre avenir, Kevin ?
Mon avenir, je voudrais déjà faire mes études sur 2 ans et peut-être faire ma 3e année là-bas. On va faire le tout pour le tout.
Au niveau pratique, ce service, c'est intéressant. Au niveau de la qualité de vie, par exemple, au Japon est différente en France. Vous avez eu assez de subsides pour pouvoir vous nourrir, par exemple, et vous loger au Japon ?
Pour le logement, c'était assez mal isolé parce que c'était un refuge pour animaux, là où je travaillais. Pour la nourriture, il n'y avait pas de problème, parce qu'on avait de la nourriture asiatique et même de la nourriture européenne, parce que maintenant, ils goûtent beaucoup à la culture italienne et française. Du coup, j'avais quand même mes marques là-bas.
Vous conseilleriez à un jeune de partir comme ça à l'étranger par le biais d'Eurocercle ?
Oui, tout à fait. Vraiment, parce que ça peut gratifier sa vie et son état d'esprit, et ça peut lui donner un bon sens moral à la continuité de rechercher un emploi ou de faire une nouvelle formation.
Vous avez découvert des cultures différentes, je suppose, des musiques différentes ou le théâtre que vous ne connaissiez pas ?
Alors j'ai découvert, vu que c'était un refuge, on avait droit à plusieurs nationalités, donc des Américains, des Australiens, du coup, toutes sortes de cultures anglophones. La culture japonaise, j'ai goûté à plein de choses, la nourriture, le théâtre kabuki, que je connaissais juste par des bouquins. Un truc que je voulais absolument faire, c'était le Hosen. C'était le fameux bain public chaud japonais, typique. C'était mon plus beau souvenir.
Et vous voulez le refaire, on a bien compris.
Oui, tout à fait, je voudrais bien le refaire.
une toute autre destination avec Paul, 23 ans, originaire du Vaucluse. Vous êtes parti au Togo. Pourquoi ce choix ?
En fait, le Togo, ça a été une destination de secours. Là-bas, je devais partir dans une autre destination, qui était la Palestine, mais avec les conflits qu'il y a eu en novembre, ça n'a pas été possible. Le consulat français s'est totalement opposé à notre départ. Et on a eu une liste d'autres choix à faire, quoi. On avait plusieurs choix, il fallait choisir un peu expressément. Et parmi ces pays, il y avait le Togo, et bon, là, j'ai été tout de suite attiré, parce que c'était une destination, l'Afrique, c'était vraiment un continent qui m'attirait et qui n'était pas présent dans les premiers choix avant que je fasse le choix de la Palestine, quoi.
Vous connaissiez l'Afrique, justement ?
Jamais, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds sur ce continent.
Comment vous êtes préparé à partir au Togo ?
Assez rapidement, figurez-vous, vu que, comme je vous ai dit, ça s'est fait en dernière minute. J'ai eu 10 jours de préparation, donc j'ai dû faire les vaccins le jour même où j'ai choisi le Togo. Donc ça s'est fait très très rapidement.
Et ce dispositif du service civique à l'international, ça vous convient ?
Bien sûr, ouais, pour moi, ça me convient. Et dans l'avenir, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à moi, du coup, vu que j'ai fait cette expérience. Ça ouvre encore sur d'autres opportunités à l'avenir, dans le même cadre.
Qu'est-ce que vous avez fait très exactement au Togo et puis en préparant ce voyage ici même en France ?
Alors, on a fait 6 mois au total. Là, on est en cours du 6e mois. Les 2 mois avant le départ, on a fait une formation à Marseille, au sein d'Eurocircle et de Razanet, pour ceux qui sont partis au continent Asie. Durant ces formations, on a eu l'occasion de rencontrer des ex-membres, entre guillemets, de l'association qui, dans le passé, sont eux-mêmes partis dans des destinations. Et en fait, ils ont partagé leur expérience avec nous, faire un peu de prévention sur les éventuels dangers, sur le choc culturel, ce genre de choses. On a eu ces formations-là, puis des intervenants aussi sur les suites, c'est-à-dire au retour, comment on pourrait envisager la suite des choses pour nous, en fait.
Nous allons parler dans un instant de la suite, mais d'abord le Togo. Comment ça s'est passé sur place et à quel endroit étiez-vous ?
Alors, j'étais à Palimé. C'est la 3e ville du Togo. C'est tout au sud, donc c'est à 2 heures de route de la capitale qui se trouve en bord de mer au sud. Donc là-bas, j'étais dans le cadre d'une ONG. Et durant ces 3 mois de séjour, j'ai été totalement immergé dans l'ONG et je faisais partie à part entière de cette ONG. Dans le cadre de ma mission, j'ai fait de la prévention, de la sensibilisation environnementale. Donc je me suis rendu dans les écoles primaires d'un village qui s'appelait Village de Kati. Donc c'est un village à proximité de Palimé et on s'est concentré sur ce village en particulier pour faire de la prévention, sensibilisation environnementale. Donc moi j'ai eu à donner des cours devant des jeunes élèves, des cours un peu simplifiés parce que souvent les jeunes élèves ne maîtrisent pas encore totalement la langue française. Donc on se faisait aider par les professeurs présents pour la traduction et bon c'était assez simple en fait, c'était avec des schémas, des petits dessins, donc pour les sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas jeter de déchets dans la nature parce qu'au Togo, malheureusement, la pollution est énormément présente.
Vous vous destinez à l'enseignement, à la protection de l'environnement ?
L'enseignement, absolument pas. C'était totalement imprévu. Mais bon, c'est une expérience assez marquante et assez bénéfique, même, je dirais, parce que se retrouver comme ça devant des élèves, à devoir enseigner quelque chose, c'est assez spécial. Et finalement, quand on sort de là, on se sent bien parce que ça, pour mon cas, je pense que j'ai su toucher les élèves à qui j'ai eu affaire et ils ont compris le message que je voulais leur faire passer. Donc j'étais assez satisfait de moi-même et du projet en lui-même. Bon, après, question environnement, si j'ai envie de me lancer dans la protection de l'environnement, ça, ce serait peut-être plus dans la lignée de l'avenir que je vois. Mais ça reste encore assez flou, malheureusement. 23 ans, je ne sais pas encore vraiment dans quoi je veux me lancer.
Vous avez le temps de voir venir les choses. En tout cas, vous allez garder un excellent souvenir du Togo.
Oui, bien sûr. C'est un pays magnifique, que ce soit au niveau des paysages et au niveau de ses habitants.
Et une belle opportunité que ce service civique à l'international.
Bien sûr. C'est une opportunité fabuleuse.
Johanna, une jeune Marseillaise de 23 ans, vous êtes partie en Grèce. Pourquoi ce choix de ce pays européen tellement mouvementée et tellement bousculée au niveau financier et économique ?
Déjà parce que la Grèce m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite, à cause des dieux grecs, des déesses grecques. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer dedans, tout simplement.
À quel endroit étiez-vous en Grèce ?
À Ioannina.
C'est-à-dire à quel endroit par rapport à Athènes, par exemple ?
C'est un peu plus au sud de Athènes, c'est vers l'Épire.
Voilà. Et qu'avez-vous fait en Grèce, donc ?
J'ai travaillé avec l'association, désolée pour mon anglais, House, ouais, c'est ça, House North Epirus.
Mais vous avez fait certainement des choses très intéressantes, en plus d'un anglais qui est un peu hésitant. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette association, Johanna ?
Alors, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec des cendres. Des centres handicapés, des centres de jeunes. J'ai aussi eu le rôle de professeur de français. C'était plutôt difficile parce qu'il fallait expliquer le français en anglais aux Grecs, ce qui était compliqué pour moi, mais ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Donc voilà, j'étais super contente d'être là-bas. Les gens sont super chaleureux.
On sait que c'est un pays qui souffre terriblement. Vous avez ressenti cette souffrance des gens par rapport à la situation économique de leur pays ?
Non, pas du tout. Moi-même, je m'attendais à voir des gens souffrir, mais quand je suis arrivée là-bas, ils étaient tous normaux. Il n'y avait pas de problème, le sourire. Je sentais pas du tout la souffrance.
Comment est-ce que vous vous êtes préparée pour aller poursuivre ce service ?
Je me suis renseignée au CRITCH. Parce que depuis le lycée, j'ai toujours voulu voyager. Je connaissais pas du tout le service civique. J'ai découvert le service civique grâce au CRITCH. Et me voilà maintenant en aidant les autres tout en voyageant. Quoi de mieux ?
C'est un voyage qui vous a marqué, on le sent, et qui aura un impact sur votre vie personnelle, professionnelle peut-être ?
Je pense que oui. Bon, l'objectif pour moi, c'était pas vraiment pour l'expérience professionnelle, mais c'était plutôt pour permettre d'aider les autres tout en découvrant leur culture. Mais après, oui, forcément, si je vais chercher un travail, je sais que ça aurait un impact durant l'entretien, par exemple, ou lorsque mon futur employeur va regarder mon CV, il sera un peu plus touché par le fait que je suis partie à l'étranger et que j'ai pu aider les autres.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune ou un jeune homme ou une jeune fille pour l'encourager à partir à l'étranger, découvrir autre chose pour avoir une vie peut-être différente ici après en France ?
Ben, de se lancer, d'arrêter de se casser la tête sans arrêt, de se poser des questions. Non, il faut pas. Quand on se réveille le matin, quand on veut faire quelque chose, il faut se lancer tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, pourquoi je ne partirais pas d'ici ? Pourquoi je ne vais pas aider les autres ailleurs qu'en France ? Pourquoi je ne serais pas prise justement dans un projet comme Eurasianet ou Eurocircle ? Et j'ai tout simplement envoyé mon CV, ma lettre de motivation. On m'a contacté. L'interview, pour moi, ma première fois avec Eurasianet, je pensais que ça s'est super mal passé parce que je suis très timide et que je parlais pas beaucoup, que je passais mon temps à rigoler pour un rien. Je me suis dit, je me suis lancée, ça marchait pas. Mais j'avais quand même de l'espoir et me voilà maintenant devant vous à parler de ce qui s'est passé en Grèce.
Et à transmettre en plus cette passion pour ce pays. Merci Johanna, à bientôt.
Merci beaucoup.
Si vous aussi vous avez le projet de partir à l'étranger, vous pouvez vous adresser à la mission d'information et d'appui au montage de projets européens, Eurocircle, 47 rue du Coq, c'est dans le premier arrondissement de Marseille. Un numéro de téléphone 04 91 42 94 75, 04 91 42 94 75 et un site internet également, www.eurocircle.info. Bon projet, bon voyage à tous.
À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Dans le langage tambour, il y a des dialectes inconnus pour dessiner les contours d'une cité disparue.
pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait, entre passeur et passage, c'est le métier qui me plaît. Faut chercher dans mes racines le goût subtil des fruits, et même dans les usines, la mécanique des mélodies. J'ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait, entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Alors jouons sur la rime, entre le fleuve et la mer, un voyageur anonyme m'attendra pour prendre un verre. Trafiquant de métaphores, insurgé de l'univers, passager du mal d'aurore, entre la mort et la mer. C'est les voyages qui m'ont fait, entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait, entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît.